colonisation, violence basée sur le genre et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Moitié-Moitié.
Moitié-Moitié, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société.
Tous les mercredis à partir de 6h30, 13h30 et 20h30.
Aussi le vendredi à 9h15.
Bienvenue à tous sur Okapi. Nous parlons aujourd'hui dans Okapi Service des constructions anarchiques. Comment lutter contre ces constructions anarchiques? Vous savez que les grandes villes du pays sont envahies par ces constructions illégales sur des espaces publics. Des individus venus de tout parts et construisent des maisons à proximité des aéroports, des voies ferrées, sur des collecteurs ou dans les domaines d'exploitation des entreprises publiques. Et cela a des conséquences graves sur la qualité de l'environnement bâti. On en parle aujourd'hui avec M. Michel Ouyumbu, président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Encore une fois, M. Michel, bonjour.
Bonjour, M. Jody.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par construction anarchique?
De prime abord, je vous remercie de nous avoir associés à ce débat. Je remercie toute l'équipe de Radio Capi. Et je salue tous les auditeurs qui nous écoutent aussi bien à Kinshasa, au Congo qu'à travers le monde. Et je salue les ingénieurs BTP qui sont à l'écoute partout où ils se trouvent, sur les chantiers et partout ailleurs. Je voudrais dire, pour commencer, que constructions anarchiques, c'est quelque chose qui, ça englobe beaucoup, trop de domaines, de secteurs, je voulais dire. De prime abord, parce que nous parlons de la construction, il ne s'agit pas tout simplement des bâtiments. Et je vais essayer d'élargir l'horizon de manière à globaliser qu'est-ce qu'on attend par la construction anarchique. Une construction, quand on parle de l'anarchie de prime abord, cela signifie...
C'est illégal.
Il y a un désordre, que c'est illégal. C'est, ça ne peut être illégal que par rapport à une loi, par rapport à des dispositions qui ont été élaborées avant, et par rapport à ces dispositions-là, on dit que voilà, cette construction est anarchique. Alors, je voulais dire qu'une construction anarchique est caractérisée par le non-respect des dispositions légales et réglementaires à la matière. Alors, ces dispositions légales et réglementaires sont très, très variées. Ce sont des dispositions qui sont de nature, de caractéristiques et de portée très variées. Et elles peuvent être nationales, elles peuvent être régionales, elles peuvent être internationales. Et ces dispositions sont, en ce qui concerne ceux qui sont nationales, c'est d'abord la constitution de notre pays. C'est ça la loi fondamentale.
Par exemple, des gens qui vont construire des maisons à proximité d'un aéroport.
Je vais y arriver, monsieur Jody. Quand vous prenez la loi fondamentale de notre pays, vous allez voir que dans cette loi donne certaines attributions, par exemple, aux provinces et certaines attributions au gouvernement national. Je vais évoquer un cas qui concerne la construction. C'est la loi sur les aménagements. Les aménagements d'une province, d'une ville, relève de l'autorité provinciale, par exemple. Malheureusement, dans ce domaine des aménagements, je suis désolé, mais je dois quand même le dire, aucune ville congolaise n'a une loi sur l'aménagement qui est valable aujourd'hui. Ça n'existe pas. Je suis désolé. Donc, si nous voulons parler de constructions anarchiques, nous devons circonscrire d'abord le cercle. Premièrement, c'est par rapport à des dispositions légales et réglementaires. Ces dispositions légales et réglementaires, nous les regroupons à trois catégories. Le premier disposition légale et réglementaire, ce sont les dispositions qui régissent les aménagements et les fonciers, c'est-à-dire les dispositions qui réglementent la distribution et l'affectation des terres. Ça, c'est la première grande catégorie de ces dispositions. Donc, là, vous avez la loi foncière, là, vous avez les différents schémas directeurs d'aménagement urbain, ainsi de suite, et les plans d'aménagement du territoire. Ça, c'est la première grande catégorie de dispositions légales et réglementaires. La deuxième grande catégorie, c'est en fait le disposition qui doit régir les acteurs eux-mêmes. Tous les acteurs du secteur de la construction, par exemple. Malheureusement, mais ce jeudi-là, nous avons un véritable vide juridique. Quelles sont les lois qui régissent les ingénieurs? Quelles sont les lois qui régissent les architectes, les urbanistes? Tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques ou non étatiques du secteur.
Est-ce que c'est ça qui pousse les citoyens qui se réveillent un bon matin, ils vont à côté d'un aéroport ou dans la concession de l'ONATRA pour commencer à construire des maisons?
Non, pas du tout. Mais parce que vous parlez des aéroports, je vous dirais que les aéroports, parce que nous sommes membres d'organisations de l'aviation civile internationale, les aéroports sont régis par des normes internationales, des lois ACI.
Et si, qu'on ne devait pas construire à côté.
Normalement, tous les aéroports devaient être clôturés. Selon ce que je connais. Mmh. Toutes les zones réservées aux aéroports devaient être sécurisées et clôturées. Si ces zones-là auraient été clôturées, on n'aurait pas ce problème. Mais qu'est-ce que nous assistons? Nous voyons que il y a des aérodromes dans ce pays où quand vous décollez, ce sont les animaux qui traversent la piste. Ça, c'est contraire aux normes de l'OACI. Par rapport aux exploitations,
des animaux qui traversent la piste.
J'en ai déjà vu. Des animaux qui traversent la piste. Et quand vous êtes, je ne vais pas citer les aérodromes ici, mais je vous dis que ce sont des choses qui existent. Donc, oui. Les aéroports, normalement, d'après les normes, ils devaient être clôturés. Ça, c'est un autre problème que vous soulignez.
Et par exemple, il y a des gens qui construisent aussi à côté du chemin de fer. Là, on sait que les trains passent par ici, mais à côté, vous avez des maisons.
La difficulté, on va y arriver, monsieur Jody, mais là, il y a d'abord un premier aspect qui est la vulgarisation de la loi par rapport à la limitation de ces zones, que ce soit. Il y a des gens qui construisent même à côté des usines de captage de la régie des eaux.
Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu, on leur a vendu ces terrains ou bien ils sont venus s'installer là.
Ce périmètre de captage doit être protégé. Pas par la régie des eaux, mais par l'autorité.
Bien sûr.
La régie des eaux n'a pas la police pour sécuriser ces territoires. L'ONATRA, toutes ces différentes entreprises. Donc je disais qu'il y a des normes qui régissent le secteur des aménagements et le secteur du foncier. Il y a des normes qui régissent le professionnel. Mais il y a aussi des normes qui régissent les ouvrages eux-mêmes.
Et malheureusement, toutes ces normes ne sont pas respectées et peut-être pas connues. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Je vous donne la parole tout à l'heure. On va accueillir Omar Kigalo de Kinshasa et Albert Mwananga qui nous appelle de Kananga. Omar, bonjour.
Bonjour, Jody Kachamé. Bonjour à l'invité.
On vous écoute. Bonjour.
Merci, Jody. Je fais mienne les interventions pendant de l'invité, mais j'ai quelques questions à poser. Premièrement, on parle de construction anarchique. Je crois que l'invité s'est plus basé sur le point de vue ouvrage ou terrain. Là, il a raison parce que c'est l'autorité qui accorde le terrain qui doit vérifier. Mais moi, je voudrais aussi parler de construction irrégulière du point de vue de celui qui le conçoit et qui doit exécuter et suivre. En ingénierie, on dit d'abord la conception, l'exécution, le suivi. Aujourd'hui, on se rend comme, on a l'impression qu'on donne tout le travail à une seule personne, quelqu'un est maçon, c'est lui qui construit, qui fait tout, qui joue la maison brûle. Je voudrais que l'invité qui est expert nous dise, lorsqu'on veut construire un terrain, quel est le niveau de l'intervention de chacun? Les topographes interviennent quand? La sûreté intervient quand? L'ingénieur intervient quand? Parce qu'ils sont nombreux et on ne sait pas à quel c'est voué de l'étape de conception, exécution jusqu'à la suivi. Deuxième chose, l'invité a parlé des normes. J'ai devant moi le code foncier qui prévoit que c'est l'autorité concédante qui accorde le terrain, qui doit vérifier si le terrain est construisable, permettez-moi le terme. Alors, il parle de non-respect des normes environnementales, juridiques et autres. Quelles sont, selon lui ou d'après lui, les vraies causes réelles qui font que les normes existent mais ne sont pas respectées? Troisième cause, aujourd'hui, il existe, je crois, une loi sur les ingénieurs. Quelle différence allons-nous faire par rapport aux ingénieurs maison, aux ingénieurs bâtiments, pour qu'on puisse bien les distinguer? Alors, quatrième et dernière question, s'il faut vulgariser les normes environnementales, à qui revient la première responsabilité? Parce qu'aujourd'hui, si les gens construisent ailleurs, c'est pas qu'ils ne sont pas instruits. C'est vrai qu'il y a l'impunité, l'autorité qui doit sanctionner ne le fait pas, l'autorité qui accorde les terrains le fait de façon irrégulière, mais s'il faut vulgariser les lois pour que les peuples ne soient plus dupes, qui doit le faire? Est-ce les ingénieurs, est-ce les juristes ou encore les architectes? Voilà mes quatre préoccupations, je vous remercie.
Merci Omar Kigalo de Kinshasa, nous allons accueillir Albert Mwananga qui nous appelle de Kananga. Bonjour Albert.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à notre invité. Avant de poser deux questions à notre invité, moi, je me pose toujours la question de savoir qui est à la base de la construction anarchique dans notre pays. Par exemple, ici, nous trouvons sur les KSRCC, on a construit là-bas par après l'État congolais, où le gouvernement provincial s'est dit non, voilà, nous allons détruire toutes les maisons construites de l'autre côté. Et on comprend que nous sommes dans un pays où un laisser-aller est permis, en fait. Donc, on ne comprend pas donc pourquoi ce genre de choses doivent toujours arriver pendant ce moment. Avant de poser encore une question, monsieur journaliste, nous sommes conscients que l'État congolais donne ses terrains, c'est lui-même qui est à la base de la construction anarchique. Et je pense qu'il y a toujours, il y a l'impunité totale jusqu'à un niveau vraiment bizarre dans notre pays. Ça c'est un point encore. La première question que je voudrais poser à notre invité, je me pose la question que l'invité puisse un peu nous préciser. Dans la mesure où nous savons que l'État est à la base de la construction anarchique et donne ses terrains, qui doit mettre fin, qui doit mettre en fait les mécanismes nécessaires
pour mettre fin à cette construction à Nachi. Pendant que nous connaissons que l'État congolais est à la base de ce genre de phénomène. Ça, c'est la question.
Bien, merci Albert, qui nous a écrit depuis Kananga. Malonga nous appelle depuis la ville de Bandundu. Bonjour.
Bonjour Jody et bonjour notre invité.
Bonjour. On vous écoute.
Ok, merci beaucoup Jody. Avant de poser ma grande question, je vais d'abord poser, exposer en tout cas ma disposition aussi. Jody et notre invité. Vous voyez, moi, je suis dans ma parcelle. Je suis en train d'entretenir ça. Mmh. Je ne sais pas comment est-ce que je peux laisser progresser quelqu'un en train de construire dans ma parcelle et moi, je vois là-bas. Non, je dois les poursuivre. On dit que tout appartient à l'État. Alors, l'État est là pour la gestion de la surface terrestre. Après Dieu, c'est l'État. Bon, tout ce que vous venez de nous citer là, près des rails, près des aéroports et des grandes routes, tout appartient à l'État. Qu'est-ce qui fait à ce que, c'est ça ma grande question, qu'est-ce qui fait à ce que l'État est partout, ici à la République démocratique du Congo en particulier? Et puis on voit commencer à construire, on ne termine pas à construire à une minute, il y a des jours qui se passent, et l'État est là. Et si vous arrivez à ces personnes qui construisent là-bas, ils vont vous montrer des documents signés par les autorités des titres fonciers. Alors, entre l'État et les constructeurs anarchiques, qui sont en torse?
Entre l'État et les constructeurs anarchiques qui a tort, c'est ça que vous voulez dire?
C'est ça.
D'accord, merci M. Michel Oyombo.
Merci beaucoup. J'ai pas noté toute la question.
Oui. Omar Kigalo de Kinshasa veut savoir quel est le niveau d'intervention de chaque des topographes ou de chaque d'ingénieur et autres dans la construction. Parce que si on parle aujourd'hui de construction anarchique, c'est qu'il y a un problème quelque part.
D'accord. J'avais déjà dit que une catégorie de dispositions légales de réglementaires devait concerner les acteurs ou les professionnels du secteur. Et là, malheureusement, nous avons un grand vide juridique. Mais il y a des lois qui sont en discussion au Parlement, la loi sur l'ordre des ingénieurs, la loi sur l'ordre des architectes. C'est à partir de cette loi qu'on va définir ce qu'on appelle les actes professionnels de chaque catégorie de professionnels. Donc, moi, je peux juste vous donner l'idée. Mais néanmoins, c'est la loi qui définira quels sont les actes réservés spécifiquement à chaque catégorie de professionnels. Comme jusqu'à aujourd'hui, il y a un vide juridique, ça veut dire que dans ce secteur-là, mais tout le monde fait n'importe quoi.
Et ça favorise les constructions anarchiques.
Absolument. Alors, quand la loi sera promulguée, on saura alors quels sont les actes réservés à chaque professionnel. Ça, c'est un. Mais d'une manière globale, je peux dire ceci. Dans les secteurs du bâtiment, nous parlons de la construction, mais je prends les secteurs du bâtiment. Dans les secteurs du bâtiment, par exemple, l'architecte est le responsable de la conception. Il conçoit, il oriente le bâtiment. Il donne la forme au bâtiment, il fait fonctionner le bâtiment. L'ingénieur, BTP, l'ingénieur de construction, l'ingénieur de structure, viendra pour dimensionner la structure et s'occuper de la construction de ces bâtiments-là. L'ingénieur géomètre topographe, il prend les aspects topographiques du projet. Par exemple, la relevé des terrains, les implantations, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, d'une manière globale, que les choses se présentent. Mais malheureusement, comme il n'y a pas une structure qui organise les actes réservés à chaque catégorie de professionnels, aujourd'hui on assiste à n'importe quoi. Donc, nous espérons.
Même un maçon aujourd'hui peut se faire passer pour un ingénieur et construire.
Absolument.
Une maison.
Et c'est ça la difficulté. Donc, la question suivante, si j'ai bien noté, j'ai encore suivi une autre question sur les problèmes de distribution de terres. Là, il y a les plus grands problèmes. C'est comme ça que j'avais commencé par dire, il y a des lois qui régissent la terre. Donc, des lois foncées et des lois sur les différents aménagements. Et si nous avions des lois sur les différents aménagements et si nous avions une autorité qui suit régulièrement la mise en application de ces lois-là, on n'aurait pas assisté à ce qui se passe.
On accuse les chefs coutumiers qui vendent des terres n'importe comment et les gens vont construire.
Là, c'est un autre problème. Il y a notre loi foncière prend par exemple l'étatisation des sols. Mais je vous assure que le sol qui appartient à l'État, on dit que le sol et le sous-sol appartient à l'État. Mais les sols qui sont gérés par l'État représentent combien en proportion? Ça ne vaut même pas 10%.
Il y a même Albert de Kananga qui dit, parfois, on laisse les gens construire, dès que les maisons s'élèvent, à un moment donné, on vient, on dit, bon, on va raser toutes les constructions qui sont, par exemple, à côté du chemin de fer. Mais pourquoi avoir laissé les gens?
Absolument. Normalement, ça,
arriver jusqu'à ce niveau-là.
Ça, c'est déplorable. On devait normalement avoir une police qui aura pour mission de mettre en exécution les différents plans d'aménagement et surveiller quartier par quartier, commune par commune, province par province, toutes les activités illicites dans le secteur de la construction. Ne même pas donner un jour à un monsieur qui s'engage dans cette activité-là. Malheureusement, la lenteur fait que on observe et quand on vient démolir, ça pourrait que le paisible citoyen, peut-être qu'il ne savait pas, a déjà engagé beaucoup d'argent là-dedans. Donc, nous pensons qu'il faut avoir
des lois
sur les aménagements. Il faut absolument sensibiliser les gens, promulguer ces lois-là, faire la grande sensibilisation. Notre ami a posé la question, qui doit sensibiliser? Mais de prime abord, c'est l'État. L'État doit mettre... Nous assistons ici à des campagnes de sensibilisation sur la vaccination. On devait les faire aussi pour les constructions.
Pour les constructions.
Parce que je peux vous assurer, mais c'est jeudi, que les constructions anarchiques, si aujourd'hui l'État laisse faire, ça veut dire que demain, il paye les prix. Aujourd'hui, l'État est en train de courir après les érosions. Certaines de ces érosions sont
causées par ces constructions.
Alors,
et il y a des gens qui construisent même sur des collecteurs.
À quoi ça sert de venir mettre 10 millions de dollars pour lutter contre une érosion, alors qu'on aurait pu éviter ça en sensibilisant les gens et en mettant de moyens, de moyens de sensibilisation et de moyens de répression efficaces pour arrêter le phénomène au début.
D'accord. On va accueillir Job de Kananga et Paul de Lumbashi. Job, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Job.
Oui, justement, j'ai une intervention à propos de l'émission du jour.
Oui.
Vous constaterez avec moi qu'ici, dans la ville de Kananga, il y a la SNCC qui disposait d'un terrain vide de part et d'autre. Et la SNCC, compte tenu de l'impayement de ses agents, avait résolu justement de pouvoir distribuer ces terrains aux agents pour... je ne sais pas, en termes de régularisation des salaires ou quoi. Et ici, avant qu'on procède à l'opération de distribution de ces terrains, il est intervenu les services de titres fonciers, ce qui est un service de l'État et les services de cadastre, qui ont procédé à la distribution de ces terrains aux agents de la SNCC. Les agents de la SNCC n'ayant pas les moyens pour construire, comme étant impayés à beaucoup de mois, les agents ont procédé à des ventes publiques de ces parcelles. Ils ont vendu leur terrain aux particuliers et les particuliers qui ont mis leurs moyens pour construire. Et des quatre matins, le gouverneur de province se réveille dans la circulation. Il dit non, c'est une construction anarchique et
on
il
doit
arrête
démolir.
L'affaire.
Oui.
Et jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont acheté les terrains et qui avaient même déjà commencé la construction des maisons sur ces terrains, on dit arrêter les travaux, comme quoi le gouverneur de province aurait donné un mot d'ordre que c'est une construction qu'on ne peut pas construire. Est-ce que l'invité du jour peut nous dire, dans un pareil cas, les particuliers qui ont dépensé leur argent pour acheter ces terrains entre les mains des agents de la SNCC, et la SNCC qui a décidé, par ses intérêts lui appartenant, de pouvoir à distribuer ce terrain à ses agents. Et dans pareilles circonstances, quel est l'espace habilité à remettre les acheteurs de ce terrain dans leurs droits? Est-ce le gouverneur de province qui aurait pris la décision d'arrêter les travaux et interdire la construction sur ce terrain? Ou alors, dans ce sens, c'est les agents de la SNCC qui auraient vendu ces terrains, qui doivent remettre les acheteurs de ces terrains dans leurs droits.
D'accord.
Parce que justement, vous allez constater que selon les mesurages qui ont été faits par la SNCC, il y a des mètres, on a respecté 15 mètres après les rails, on a commencé à distribuer les parcelles. Et on commence à construire. C'est un terrain d'ailleurs qui créait l'insécurité auparavant. Si on
D'accord.
Monsieur
Job.
Si on construisait sur ces terrains, ça va éradiquer le problème de sécurité qu'il y avait sur ce terrain. Maintenant que l'autorité provinciale prend la décision de pouvoir empêcher aux gens de construire sur ce terrain, on autorise qu'il y ait une brousse qui va continuer à créer de l'insécurité dans l'État. Est-ce que l'invité peut nous éclaircir sur cette situation?
D'accord, merci. Paul, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis.
Nous parlons des constructions anarchiques. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, oui. Bon, moi, j'avais une question à poser un peu à votre invité.
Oui.
Parce que je me demande au juste qui doit concevoir le plan de la ville. Je peux vous donner un exemple. Dernièrement, nous avons été appelés dans le quartier Louanchet, c'est ici à Lubumbashi. On nous avait dit qu'on était en train de couper des parcelles là-bas. Je vous dis, j'ai trouvé une seule personne. Il vous dit, moi j'ai prévu que l'avenue principale sera ici, là-bas je vais laisser un marché. Une seule personne, je ne sais pas s'il est habilité, s'il est du cadastre, on ne sait pas, mais de toutes les façons c'est lui qui distribue les parcelles. Je me suis demandé, est-ce qu'une grande ville comme Lubumbashi, une seule personne peut prendre cette responsabilité de tracer des routes lui-même, il vous dit c'est ici où sera la principale, ici ça sera comme ça ou cela. J'ai dit, mais en fait nous sommes dans quelle ville? Et puis je me demande, qui doit faire arrêter ces travaux? Je vais vous donner deux exemples. Il y a quelques années ici, du côté du campus de Lubumbashi, c'est le gouverneur Moïse Katumbi qui avait décidé qu'il y avait des constructions anarchiques. On avait détruit toutes ces maisons, même à l'entrée de la ville. Et dernièrement, nous voyons, c'est le maire de la ville qui est à côté de l'aéroport de la Luano là-bas, en train de détruire toutes que ces maisons ont été construites anarchiquement. Mais ces maisons existent depuis plus de 10 ans. Il y a une avenue qu'on est en train de réhabiliter ici, l'avenue Kinshasa.
Oui, la communication se dégrade. On ne sait plus vous écouter très bien, Paul. Mais on a quand même retenu à l'essentiel de votre préoccupation. Monsieur Michel, vous avez la parole.
Ah, merci beaucoup. La première question, c'est celle de notre ami Job de Kananga, je crois, si j'ai bien suivi. Il a parlé d'intérêt de la SNCC qui a été distribuée. Bon, de toute façon, je n'ai pas assez d'éléments d'appréciation, mais je pourrais quand même dire quelque chose. Donc, quand intérêt appartient à la SNCC, c'est une propriété de la SNCC. Il y a une procédure de désaffectation de ce terrain-là. Pour que ce terrain-là devienne propriété privée, il y a une procédure de désaffectation. Je ne sais pas est-ce que la procédure a été suivie. Ça c'est une question que nous posons.
Il dit que c'est la SNC elle-même qui a décidé de distribuer les terrains à ses agents impayés.
Si c'est la SNC qui a décidé de faire ainsi, est-ce que c'était la décision de l'autorité compétente de la SNCC? Ça, c'est encore un autre problème. Est-ce que l'autorité qui a décidé a la compétence de désaffecter l'intérêt de la SNCC et distribuer ça aux anciens agents de la SNCC? Donc, toutes ces questions-là, je crois, doivent être analysées pour voir réellement si la procédure a été suivie ou pas. Mais ce qui est bien dommage, c'est qu'on laisse trop faire. Je reviens sur ce que j'avais dit avant, que on devait mettre un mécanisme qui permettra de manière à ce que, au moindre mouvement qui se passe sur un terrain, que l'autorité soit informée et que les mesures soient prises le plus rapidement possible. Mais malheureusement, quand on laisse faire, quand ça prend beaucoup de temps, que des gens aient engagé de l'argent, ça devient quelque chose de très compliqué. Donc, il y a moyen.
Mais on dit que on parle d'une construction anarchique quand c'est construit à des endroits inappropriés.
Inapproprié. Là, je reviens. C'est intérêt de la SNCC. Est-ce que le terrain a été désaffecté? Est-ce que la procédure a été bien suivie? Est-ce que la personne qui a désaffecté a la compétence de désaffecter le terrain?
Ils disent que c'est à 15 mètres du rail.
Oui, 15 mètres du rail ne veut rien dire. Si l'agent qui a décidé de la distribution de ce terrain-là n'a pas compétence, là, il y a un problème au niveau de la distribution de ce terrain. Non, mais c'est quelque chose que nous ne savons pas analyser correctement. Et je donne quand même quelques grandes lignes pour montrer que un domaine qui appartient à une entreprise de l'État, on ne peut pas se retrouver demain après-demain pour dire qu'on nous a distribué ça. Ça doit être une procédure qui est bien suivie, avec des documents que l'on peut prouver que réellement, ce terrain nous revient maintenant. Ça, c'est ce que je pouvais dire par rapport à la question de notre ami de Kananga. Et par rapport à la question de notre ami de Lubumbashi, J'ai essayé d'analyser ce qu'il a dit en disant qu'il a trouvé un monsieur qui est en train...
Lui seul en train de distribuer et de dire là on va aménager un marché, là il y aura ceci, il y aura cela.
Moi je ne pense pas que l'aménagement, qui est un domaine très complexe et très pluriel, puisse se faire par un seul individu. Peut-être n'était-il pas le monsieur qui est en train d'exécuter un plan déjà proposé, un plan d'aménagement que lui avait pour faire la mise en application de ce plan. Peut-être. Mais quand bien même il soit en train de faire une mise en application du plan, je ne pense pas qu'un homme seul peut faire tout ce travail-là. C'est très complexe.
C'est très complexe.
Alors,
Élaborer un plan d'aménagement, c'est pas une chose facile.
C'est un domaine pluridisciplinaire. Parce que si vous voulez élaborer un plan d'aménagement d'une ville, je me rappelle en 2007, nous avons été associés à l'élaboration, pas du plan, mais des termes de référence qui devaient produire le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. Et nous nous sommes retrouvés, c'était une centaine de personnes. Vous avez des géographes, vous avez des historiens, vous avez des sociologues, vous avez des ingénieurs, vous avez tous des urbanistes, des architectes. Parce que, et même des archéologues, quand vous aménagez un terrain, mais vous risquez de perdre de vue qu'il y a un site archéologique à côté. Vous risquez de le loter. Qui a peut-être un cimetière qui n'a pas encore été désaffecté et vous risquez de le loter. Donc c'est un domaine pluriel, le domaine d'aménagement. C'est un domaine de plusieurs spécialistes et il y a aussi les décideurs politiques. Quelle est l'orientation que l'on veut donner à cet aménagement? Mais il ne faut pas oublier, il y a aussi les différents spécialistes en transport pour que le réseau de transport soit conçu. Donc c'est vraiment un domaine.
Malonga a posé la question de savoir entre l'État et ceux qui construisent là de manière anarchique, qui est fautif ou qui est responsable.
De toute façon, le dire que tel est tel fautif, c'est trop trivial. Mais il faut analyser le problème au cas par cas pour voir à quel niveau se trouvent les responsabilités des uns et des autres. Mais ce que nous sommes en train de déplorer par rapport aux distributions de terres, parce que là, je suis désolé, on est trop focalisé sur la distribution des terres, sur la lenteur des services de l'État. Quelqu'un peut se réveiller un jour. On a déjà assisté même à Kinshasa, ici, à plusieurs appareils sur les cimetières de Kassavubu.
Les gens qui construisent à proximité des cimetières.
Plusieurs fois, on a vu sur les cimetières de Kassavubu, des maisons montées, on ne comprend pas. Un mois après, on vient raser. Mais ces gens-là ne pouvaient même pas faire une heure là-bas. Parce que nous avons tous les services de l'État qui sont ceux qui parlent. Qui a autorisé? On ne comprend pas. Donc, cette lenteur-là est en train de causer préjudice. Aujourd'hui, si vous êtes dans la ville de Goma, par exemple, le long du lac, les gens construisent partout. Mais le long du lac...
Est-ce qu'il y a eu un plan d'aménagement?
Malheureusement pas. De l'autre côté du lac, vous trouverez à 40 mètres de long du lac, on ne construit pas. On ne construit pas. Parce que ces beaux paysages-là, tout le monde en a besoin. Alors, si moi, en tant qu'individu, je viens m'approprier ces paysages-là le long du lac, mais personne d'autre ne pourra accéder parce que ça va faire partie de mon territoire privé. Donc, il y a des choses qui doivent être réglementées. Les grands problèmes, c'est qu'on doit d'abord fixer les règles du jeu, élaborer les différents plans d'aménagement dont on a besoin, faire la sensibilisation des gens par rapport à ces plans d'aménagement.
Et les lois aussi, vous avez parlé des lois.
Absolument des lois et des normes, parce que là, c'est toute une matérie. C'est l'arsenal là, tous ces textes, le goût et réglementaire, c'est toute une matérie de choses à observer. Et il faut qu'il y ait une bonne volonté politique, parce que ce qu'on laisse faire aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, l'État le paye demain. L'État est en train de payer une lourde facture pour ça. Aujourd'hui, si tu vas dans les différents périmètres des captages de la région des eaux, les gens ont construit. Qu'est-ce qui se passe? En amont même de l'usine de captage. L'eau qui est en amont de l'usine de captage, due aux activités des hommes qui se trouvent dans la périphérie, est complètement chargée, trop souillée.
Les toilettes, tout ça va finir là-bas.
Les traitements de l'autre côté maintenant, en aval, coûtent extrêmement cher à la région des eaux. Donc, quand vous avez une eau qui est totalement suyée, donc il faut mettre de moyens.
Beaucoup de moyens encore pour la purifier.
Ouais. Alors que si ce périmètre-là n'était pas occupé, on mettrait trop peu de moyens.
D'accord, donc, on va accueillir Willy de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, c'est Monsieur Willy qui appelle de Kinshasa.
On vous écoute Willy.
Je remercie Radio Okapi pour ce thème extrêmement intéressant et je remercie également l'invité du jour, M. Michel, le président de la Corporation des ingénieurs BTP. Très rapidement, mon avis par rapport à ce thème, c'est que je reconnais quand même qu'il y a de lois dans notre pays, commençant par la Constitution également, il y a des lois spécifiques qui régissent l'organisation de l'espace qui est la République démocratique du Congo. Il est tout aussi vrai que ce travail d'élaboration de lois est appelé à se poursuivre hein, pour permettre à ce que qu'il y ait la mise à jour de ces différentes lois qui sont déjà qui existent déjà. Mais le problème c'est que c'est au niveau du suivi de la dans la matérialisation ou dans l'exécution de ces différentes lois. Parce que imaginez-vous Radio Okapi, il y a dans la loi qui régit le domaine de l'organisation de l'aménagement, il est prévu des zones non édificantes, c'est-à-dire des zones où on ne peut pas construire. Mais figurez-vous que l'État lui-même qui a mis en place cette loi-là, des fois constate comme ça que les gens sont en train de construire dans ces zones qui sont déclarées par la loi non édificantes, mais l'État ne fait rien. Donc vous voyez, c'est comme ça que j'ai dit que c'est un problème de suivi. Ces lois-là qui sont votées, promulguées, ne sont pas dans l'État, intervient en amont, mais en aval, c'est-à-dire au niveau de l'application de ces lois-là, il n'y a pas de suivi. Donc il est important que l'État ne se limite pas au niveau de l'élaboration tout simplement des lois en amont, mais il faut que l'État mette en place les mécanismes de suivi de l'exécution de différentes lois qui sont élaborées. Donc le problème c'est à ce niveau-là. Et aussi, il n'y a pas la sensibilisation. J'ai suivi l'invité de tout à l'heure, il a parlé par exemple de sensibilisation quand on fait la vaccination. Nous devons faire ce genre de sensibilisation pour permettre à la population de s'approprier de ces différentes lois. Parce qu'il y a des gens qui font ça tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés, mais il y a d'autres qui constatent que l'État n'intervient pas. Donc l'État est totalement absent en aval. Et les gens sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, et la conséquence revient encore sur l'État. Imaginez aujourd'hui, il y a des sites, il y a des érosions aujourd'hui. Les érosions là sont beaucoup plus dues au fait qu'il y a des constructions anarchiques. Aujourd'hui, les gens vont construire dans le bas-fond. Vous voyez, quand vous allez vers Njiri, là, vous voyez qu'il y a des bas-fonds, le lit majeur de Lvière, mais les gens construisent là-bas, et quand on commence à construire, l'État ne fait rien. Et par après, quand il y a les inondations, c'est toujours l'État qui revient pour commencer à débourser des moyens pour intervenir, pour sécuriser les gens. Donc moi, je pense que c'est tout simplement les constructions anarchiques, ça peuvent être réduites sensiblement, en amont, si l'État fait le suivi correctement. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, il faut l'efficacité de l'État qui est
en amont déjà,
c'est-à-dire
tout à
l'élaboration des lois. Il faut également que cette même efficacité soit en aval dans la mise en œuvre des différentes lois. Vous verrez qu'on va réduire sensiblement
les constructions anarchiques. Merci Willy de Kinshasa. Félicien Kindoula, vous êtes également à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Nous parlons des constructions anarchiques, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ah oui, mais vous savez que quand vous parlez des constructions anarchiques, c'est-à-dire que ça vient de la gestion anarchique du pays, nous ne pouvons pas comprendre que le pays est structuré, et du chef de quartier jusqu'au président de la République, il y a toute une hiérarchisation des postes. Mais comment est-ce que les gens arrivent à construire anarchiquement sans être interpellé et sans qu'il y ait quelqu'un qui intervienne? Donc ça dit que depuis la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la situation de non-État, la situation de la démission des services de l'État, et nous sommes dans une gestion anarchique du pays. Donc la solution, c'est que nous puissions changer la gouvernance, c'est que nous puissions être un pays gouverné à tous les niveaux, pour que nous puissions pas vivre toutes ces histoires-là. Des gens arrivent même à barrer toute une avenue, un individu construit un mur, il y a personne qui intervient. Mais est-ce que nous sommes vraiment un pays organisé? C'est là le problème. Moi je pense qu'on doit interpeller ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de diriger le pays, mais ils sont en train de s'occuper d'autres choses, peut-être de leur enrichissement illicite.
Merci Félicien Kindoula de Kinshasa. Monsieur Michel, vous avez la parole.
Ah, merci beaucoup. Je remercie notre ami Louis de Kinshasa. Il a dit des choses très fondamentales. Donc, l'autorité doit être en amont et en aval. Aussi bien dans l'élaboration des différentes lois, dans la révisitation des lois qui sont devenues obsolètes, mais aussi bien dans la mise en œuvre, ou d'abord dans la vulgarisation, sensibilisation, et aussi dans la mise en œuvre de toutes ces dispositions.
Il faut vulgariser comme on le fait avec la vaccination.
Absolument, il faut vulgariser. Il faut vulgariser.
Sensibiliser les gens.
Et d'ailleurs, je voulais dire une chose par rapport au plan d'aménagement. Vous savez, monsieur Jody, quand on élabore un plan d'aménagement, il y a une étape qui est prévue, c'est l'étape de l'enquête publique. Vous ne pouvez pas élaborer un plan d'aménagement et venir imposer ça à la population. Vous l'élaborez, vous dites à la population que voilà, le plan que nous nous proposons, nous vous donnons un délai de 2-3 mois pour que vous y amenez toutes vos suggestions et tout ce que vous pouvez avoir comme complément, disons, comme commentaire par rapport au plan d'aménagement. Et l'enquête publique, c'est justement pour faire en sorte que la population puisse s'approprier cela. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un phénomène très, très compliqué dans la vie de Kinshasa. Vous savez, dans une ville, vous avez ce qu'on appelle les zoning, les zones, cette zone est réservée, par exemple, à l'industrie, cette zone est réservée aux activités agricoles, cette
zone est réservée... Willy a parlé des zones non édificantes.
Les zones non édificantes dont il faisait allusion, c'est des zones sur lesquelles on ne peut pas construire.
Quel genre de zones, par exemple?
Il a parlé des bas-fonds. Vous trouvez, par exemple, sur les bas-fonds. Vous trouvez, par exemple, sur des collines ou des pentes trop raides. Vous retrouvez, par exemple, sur des zones inondables. Vous allez construire votre maison là-bas. C'est sur le lit de la rivière. Cette zone est inondable. Aujourd'hui, la rivière Ngili, quand vous passez par là, vous avez l'impression que c'est ça le lit. Mais non, il faut attendre la période des crues, vous allez voir. La rivière sort carrément de son lit initial et envahit carrément les étoiles. Il peut aller même à 40-50 mètres. Nous avons assisté dans cette ville à des inondations où la rivière Ngili débordait jusqu'au niveau de ma crevette. Donc, ces zones.
Mais les gens qui ont construit à côté s'est retrouvés dans l'eau et il fallait vite évacuer les lits.
Justement, dans le plan d'aménagement initial, le vieux plan d'aménagement initial, le tout dernier qu'on a eu dans ces pays, dans ces villes de 1978, ne prévoyait pas des habitations à ce niveau-là. Donc, il faut absolument que nous puissions mettre en œuvre des plans d'aménagement, pas seulement les mettre en œuvre, mais associer la population lors de la mise en œuvre de ce plan d'aménagement, vulgariser cela, sensibiliser les gens et faire en sorte qu'il y ait des mesures de répression. Aujourd'hui, tous les quartiers industriels délimités sont en train de disparaître.
Pourquoi? On est en train de...
Écoutez, les anciennes usines, les
quartiers sont transformés en maisons d'habitation.
En maisons d'habitation. Mais il n'y a aucune disposition de la loi qui empêche cela. Et figurez-vous, par exemple, il y a des confessions religieuses dans cette ville qui ont acquis des terrains depuis l'indépendance, l'époque coloniale. Ces terrains-là étaient consacrés aux œuvres sociales. Les églises, les écoles, les hôpitaux. Aujourd'hui, ces terrains sont transformés complètement au terrain d'activité commerciale. Et sous la barbe de l'autorité. Tout le monde connaît. Regardez le long des grandes écoles, à côté du marché Bayaka. Vous avez un complexe commercial qui est là. Mais c'était un terrain à destination sociale d'une église confessionnelle de ce pays. Vous regardez à la Gombe.
Tout ça, c'est anarchique.
Généralement, parce que c'est anarchique par rapport au plan d'aménagement. La destination initiale de ce terrain-là n'était pas des activités commerciales. La destination de ce terrain était des activités sociales. Si aujourd'hui, moi, je dois changer la destination de mon terrain, imaginez-vous, j'achète...
Même les terrains du zoo, les jardins zoologiques de Kinshasa.
Il y a des activités.
Botaniques, là, devant, maintenant, on est en train
Absolument.
De construire.
Donc, c'était un jardin zoologique. Aujourd'hui, c'est une activité totalement commerciale. Donc, je pense que nos amis qui sont au Parlement, qui nous écoutent, nous avons beaucoup de soucis par rapport aux lois qui encadrent la gestion des terres et les aménagements.
Donc, la loi doit être mise à jour.
La loi doit être révisitée, mise à jour. Parce que si vous avez acquis, parce que quand on distribue les terres, c'est aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas. Si vous prenez les terrains pour une destination sociale, mais les terrains-là coûtent moins cher. Parce qu'on sait que vous allez faire des œuvres sociales. Mais quand vous allez acquérir le terrain pour une
des activités commerciales,
ça a un autre prix. Mais voilà que vous avez acquis un terrain pour une destination autre que la destination commerciale. Aujourd'hui, vous transformez ça. Vous faites le changement de destination du terrain. Vous allez ériger dans ce domaine-là une construction qui n'était pas prévue. Vous entrez complètement dans l'anarchie par rapport à la loi.
Et Félicien nous révèle qu'il y a des gens qui se permettent de barrer une avenue, par exemple, parce que lui, il veut occuper cet espace-là.
Mais généralement, c'est là où j'ai dit que
vous connaissez ce genre de situation, monsieur Michel.
Nous circulons dans la ville, vous allez tout droit sur une route, et puis vous arrivez, oh, c'est la personne de quelqu'un. Et pourtant, c'est une route. Donc, vous comprenez par là que la route passait par là. Il y a des anneaux, la route passait par là. Mmh. Et après, la route a disparu. Donc, là, il faut qu'il y ait des suivis. Il faut qu'il y ait un mécanisme rapide de répression. Pour que quelqu'un n'aime pas une heure où il occupe un domaine public ou même un domaine privé de l'État sans qu'il y ait une répression. On doit activer ces mécanismes-là.
Et vous avez parlé des conséquences. Quelles sont les conséquences des constructions anarchiques?
Oh, elles sont très grandes. Parmi les conséquences que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des érosions qu'on retrouve dans les collines alluvionnaires, ainsi de suite. Parmi les conséquences qu'on retrouve aujourd'hui, quand vous laissez une ville se construire avec les chefs coutumiers, vous vous retrouvez dans des endroits où vous n'avez pas de zones réservées, comme terrain de jeu pour les enfants.
Pas de marché.
Pas de marché. Les équipements collectifs, vous n'en avez pas. Mmh. Pas des hôpitaux. Et aujourd'hui, quand vous circulez dans ces coins-là, vous vous rendez compte que les enfants sont en train de jouer. Carrément, ils ne savent pas où jouer.
Il n'y a plus de terrain, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas des aires de jeu.
Or, si ce terrain était loti, aménagé d'une manière correcte, on aurait prévu des équipements collectifs, on aurait prévu tout, on aurait prévu un centre commercial, ainsi de suite. Et on aurait même fait la viabilisation. Vous allez voir des avenues qui commencent à 7 mètres et qui se terminent à 2 mètres. Ça existe parce que personne ne suit. Vous avez une route de 8 mètres ici. Un jour, elle est passée par là. Mais le premier monsieur avance de 3 mètres sur la route. Et ensuite, tout le monde fait le même mouvement et personne n'est là pour les interdire.
Mmh. Alors, quelle est la solution finale, M. Michel Oyombo?
La solution finale est qu'on intervienne au niveau de ces trois catégories, donc au niveau de tout ce que nous avons comme disposition légale et réglementaire qui régissent le terrain, mmh. qui régissent le professionnel et qui régissent l'ouvrage. Malheureusement, on n'a pas beaucoup parlé des dispositions qui régissent les ouvrages en ce qui concerne la conception, par exemple. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas construire un stade sans vous référer aux normes FIFA sur la sécurité.
Mmh.
Si un stade ne s'adapte pas aux normes FIFA sur la sécurité, pour FIFA, c'est une construction anarchique. Si un aéroport ne s'adapte pas aux normes de l'Organisation internationale, de l'aviation civile internationale sur les aéroports, ça veut dire que cet aéroport-là ne répond pas aux normes FIFA. Cet aéroport se trouve dans une catégorie de construction anarchique, par exemple, pour l'OSAI, ainsi de suite.
Voilà. Merci, M. Michel Oyombo. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. À la prochaine.
Merci.